Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
On the Verge est un podcast sur la sexualité masculine, sans tabou ni jugement. Il y a quelques mois, je recevais « J'aimerais beaucoup y participer, étant donné que j'ai une expérience assez incroyable. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un. » Je trouvais ça intéressant de parler à un jeune homme de 25 ans qui n'a pas encore eu de relation sexuelle, mais surtout comprendre le chemin, comprendre pourquoi il avait, entre guillemets, comme il me l'avait dit, raté le coche. Au-delà de sa virginité, nous avons parlé du body positive, des complexes, de l'importance du soutien des amis. Je trouve que c'est un témoignage très courageux et je remercie vraiment Manu pour son honnêteté et la confiance qu'il m'a accordée. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Manu, ça va ?
Salut, ça va ?
Tu m'as aidé sur la technique là qui était un peu complexe, je te remercie. Manu, on s'est rencontrés en fait au hasard d'un plateau que j'avais fait avec une chroniqueuse qu'on connaît en commun qui s'appelle Davia. Et après cette chronique, on avait parlé de sexualité masculine, tu m'as contacté et on a discuté un petit peu par mail et tu m'as dit que tu aimerais bien partager ton témoignage.
Effectivement. Oui.
Que c'était important pour toi, que tu avais des choses à dire et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu me disais, c'est que tu as le sentiment que ça aiderait potentiellement d'autres garçons qui sont dans la situation que tu vas nous raconter. Et je te remercie pour ça, parce que c'est une grande preuve de générosité et de bienveillance. Hein, c'est un peu le mot du podcast. Donc Manu, je vais commencer par la première question que je pose à tous mes invités et que tu connais. C'est quoi ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ?
Mon tout premier souvenir, ça a été il y a 10 ans maintenant. J'ai 24 ans.
24
et,
ans.
À 14 ans, mon tout premier souvenir marquant, ça a été quand j'ai découvert un petit peu tout ça, ma sexualité. En fait, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Je comprenais, il y avait des choses que je ne comprenais pas du tout. Et lorsque j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire, toute l'étendue qu'il y avait, etc., je me suis dit, ouais.
Donc, tu étais adolescent ?
J'étais adolescent, ouais.
Et juste avant, quand tu étais jeune garçon ou même à la maison, on ne parlait pas de sexualité chez toi ?
Non.
Jamais ?
Pas du tout. C'est un mot complètement tabou.
D'accord.
C'est vraiment... Ça a été un sujet très tabou à la maison.
Tu sais pourquoi ?
Non. Je ne sais pas pourquoi et ça m'intrigue un petit peu.
D'accord. Et même aujourd'hui, adulte, dans ta vie d'adulte, tu n'en parles toujours pas avec tes parents ?
Non.
Tes frères et sœurs, peut-être ?
Non plus.
D'accord.
Pourtant, je sais que il y a certaines pratiques qui sont même chez moi, hein, j'en ai jamais parlé, déjà par respect par ma sœur, parce que c'est ma sœur dont je connais un petit peu les pratiques.
Et alors quand tu dis les pratiques, c'est un peu ça sous-entend.
C'est-à-dire que
elle est active sexuellement.
Elle est active sexuellement. Elle a un chéri et elle a sa vie sexuelle épanouie et mais avant qu'elle le connaisse, elle avait ses plaisirs personnels,
ah,
on va dire.
Ah d'accord, ok.
Et disons que, je ne sais pas si ma mère était naïve ou si elle le savait, mais disons que on retrouvait des objets dans la maison, son lit, et il y avait, je savais moi ce qu'elle en faisait, mais je ne savais pas si ma mère le savait. Donc,
d'accord, donc ta sœur plutôt à l'aise.
Ouais.
D'accord.
Elle, ouais.
Donc, jeune garçon, ton corps change un petit peu. Donc, c'est là où tu commences un peu avec les hormones, hein, les amis, les hormones, qui commencent un peu à te chatouiller.
Ouais.
T'en parles un petit peu au collège avec tes copains ?
Non.
Pareil. Vous ne parlez pas du tout de sexe ?
En fait, je pense qu'on a commencé à en parler au lycée, en première.
D'accord, au lycée. Donc, c'est quoi les premières discussions que tu as ?
Les premières, c'est est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que t'as mesuré ton sexe, etc. Enfin, les
situations
d'ado normales, c'est qui a la plus grosse, quoi, en gros, quelque part. Et on en a discuté. Puis après, au fur et à mesure du temps, vers 18-19 ans, on a commencé vraiment à en parler, mais avec beaucoup plus de bienveillance et de recul sur les choses. Ce qui a été une grande, grande qualité. Je pense que j'ai eu des amis qui ont eu beaucoup de bienveillance et qui m'ont dit, bah ouais, mais franchement, voilà, on en a parlé sans tabou. C'est la première fois que ça m'arrivait quand même. Sans tabou et vraiment beaucoup de bienveillance sur la chose.
Sur leur partenaire et sur
leur partenaire, sur comment ils l'ont fait, comment ils ont découvert tout ça, et surtout partager vraiment leur première expérience.
D'accord. Et à ce moment-là, donc tes copains, tes amis te parlent de leur première fois. Toi, tu t'intéresses aux garçons, aux filles à ce moment-là. Comment ça se passe?
Je savais tout de suite que j'étais intéressé par les filles. Mmh. C'est quelque chose qui m'a semblé tout de suite évident, logique. Enfin, c'est comme c'est un petit peu notre corps, on le connaît. Je pense qu'on commence à le connaître un petit peu après. Il y a eu des phrases qui m'ont choqué sur leur façon d'aborder la sexualité, surtout par mes parents, parce que quand je dis que j'en ai pas parlé, c'est ma mère m'en a parlé peut-être deux minutes dans ma vie.
Pour te dire comment c'est les enfants.
Pour me dire, j'ai eu peur que t'aimes les garçons.
C'était une crainte qu'elle avait que tu sois homosexuel.
Ouais, c'est une crainte qu'elle avait. Et je me dis, bah, ok, si tu veux, mais j'en ai pas prêté attention jusqu'à ces affaires là, et je me dis, ouais, ça c'est vrai, elle était choquante quand même.
Et par exemple, quand tu es au collège, quand tu as des cours d'éducation sexuelle ou quand tu as des cours tu vois, en bio, pareil, tout ça, tu apprends ça à l'école? C'est pas du tout tes parents qui t'enseignent
Ouais, j'apprends ça à l'école, en fait. J'apprends ça à l'école. Je pense que j'ai même appris, j'ai même appris comment, quelque part, on faisait un petit peu l'amour, quelque part. Je l'ai appris très tôt, mais sans le vouloir.
C'est-à-dire
que quand on est enfant, on se lève un petit peu vers 8h, 8h30 du matin, il est dimanche, et on se dit, tiens, on va voir papa-maman pour aller préparer le petit déjeuner. Sauf qu'ils n'étaient pas en train de préparer le petit déjeuner.
Surprise hein. Donc, Mamie, voilà, tu sors.
Mais ouais, en gros, ouais, ça, c'était, je pense, ma première vision... on va dire de la sexualité, c'est à ce moment-là. Mais après, cette image m'est restée en tête, et puis après j'ai compris pourquoi.
Oui. Donc voilà. Et une question me vient, parce que comme tu as 24 ans, tu es à cette génération-là qui a eu accès au porno, qui a accès au porno très facilement.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as consommé ado? Est-ce que tu consommes encore?
J'ai consommé ado beaucoup. Pour comprendre un petit peu, parce que bah, comme on n'en parlait pas, il fallait bien que je découvre par moi-même aussi.
Donc ça, c'était au collège quand
C'était au collège, et au lycée aussi d'ailleurs. Et là, petit à petit, j'en consomme un peu moins, voire même des fois, même pas du tout. Parce que j'essaye aussi de me dire... c'est pas forcément par là qu'il faut passer, et qu'on essaye d'autres manières d'y penser, de faire nos plaisirs personnels quelque part.
Je comprends. Et quand tu regardais le porno, c'était quel format? C'était sur Internet?
C'était sur Internet, oui.
D'accord. Et donc tu regardais un peu ce qui se passait, ou tu avais des recherches particulières, ou qu'est-ce qui te...
Je pense que c'est venu en fait très naturellement derrière. C'est que au départ, c'était vraiment des recherches, la première vidéo qui tombait quelque part. Et puis petit à petit, en se laissant dériver, il y a eu un petit peu nos goûts qui commencent à évoluer.
T'as affiné un peu tes recherches.
Ouais, affiné un petit peu mes recherches. Et là, maintenant, c'est plus du. J'allais dire, ouais, plus du. Je ne sais pas comment dire ça. Plus des femmes en combinaison qui permettent des choses après. Quoi.
D'accord. Ça, c'était recherche. Donc là, on est au lycée. Donc, tu es avec tes potes, partagent leur expérience. Donc, te racontent un peu. Toi, donc, tu continues de on va dire, te nourrir des histoires de tes potes.
Ouais.
Toi, c'est comment tu es avec les filles à ce moment-là?
Très réservé, très timide, et je n'arrive pas à y aller.
Et t'arrives pas parce que quoi? Parce qu'est-ce qui te bloque? Tu sais?
Ce qui me bloque, c'est mon physique.
Pourquoi ?
Ce qui me bloque, c'est mon physique, parce que il y a eu de nombreuses moqueries par rapport à mon physique.
Permets-moi d'être étonné, parce que je n'arrive pas trop à comprendre.
Alors, c'est normal, parce que c'est plus sur mon corps, entre guillemets, c'est-à-dire que ma pilosité est très développée, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup complexé dans ma vie, même encore aujourd'hui, c'est que je suis très complexé par ça. Beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, on dirait plus Chewbacca ou... Ou Gollum, j'avais envie de dire ouais,
Gollum
bah,
n'a pas
non.
De poils, hein, je me permets.
Mais quand même, ça a été incroyable.
D'accord, donc tu as eu beaucoup de moqueries au collège. Ouais. Donc ça t'a duré quoi, collège-lycée ?
Collège-lycée, ouais.
Garçon-fille qui se moquait de toi ?
Ouais, les deux. Ça a été assez dur, ouais.
Aujourd'hui, à quasiment 25 ans, ta pilosité, elle semble tout à fait normale ?
Ouais. Mais sauf qu'il y en a qui me... Encore aujourd'hui, je crois qu'il y en a qui me... C'est un peu moins brut.
Beaucoup de moqueries. Donc aujourd'hui, tu disais que un peu moins quand même.
Ah, un peu moins. Voire même beaucoup moins.
Bah oui, parce que enfin, les hommes poilus, en plus, c'est un peu à la mode, tu vois. Non ?
Bah, j'ai pas eu le goût et les couleurs de mes amis IES. Donc quelque part, non, j'en ai pas eu le...
D'accord. Donc t'as-tu complexe avec ta pilosité qui est jugée trop importante par rapport à tes potes ? T'as eu une puberté tôt ?
Assez tôt, ouais.
Ouais, donc du coup, t'étais par rapport aux copains dans les vestiaires, t'étais poilu par rapport à eux, ouais. Qui étaient imberbes.
Ouais.
T'en as déjà beaucoup. T'en as parlé à tes parents ?
Que
tu complexais ?
J'en ai parlé à mes grands-parents.
À tes grands-parents ?
Parce que mes grands-parents ont eu beaucoup plus de bienveillance par rapport à ça. Il y en a qui me disaient, enfin, parle-en à tes parents. Je me suis plus âgé avec eux parce que c'est avec eux que j'en ai parlé, c'est avec eux que j'ai vécu vraiment toute mon enfance, quoi, quelque part. Donc, je me suis dit, bah, on va leur parler, on va leur dire ce qu'on a sur le cœur. Et bah, ils m'ont dit, bah, ouais, bah. Laissez, en fait.
C'est comme ça, ouais.
C'est comme ça. Je veux dire, t'es bien comme tu es et puis ça changera pas.
Et ça, tu penses que c'est ça qui t'a bloqué avec les filles ?
Ouais, beaucoup.
T'arrivais pas du tout à aller vers elles parce que justement, tu complexais sur ton corps, ta pilosité, etc. Donc là, t'es fin de lycée, à peu près.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ? Alors, tu décides de faire tes études. T'as grandi où ?
Et j'ai grandi dans le Val d'Oise.
Ok. Tu fais tes études dans quel coin ?
Bah, Paris. Dans le même secteur.
Okay.
Je suis très... je suis quoi, à 3 km de chez moi à peu près, à chaque fois. Et je fais des études en informatique. Et qui dit études en informatique dit pas forcément beaucoup de filles.
Ouais.
Et qui dit pas beaucoup de filles, bah, dit vie sexuelle au point mort.
Donc, si je comprends bien, donc, au lycée, t'arrives pas à avoir d'amourettes, de flirts, d'histoires d'amour, alors que tes copains... évoluent dans leur vie sexuelle. Tu as ton bac, tu vas faire tes études dans l'informatique. Toi, à ce moment-là, est-ce que ça te pose un sujet ? Est-ce que tu y penses beaucoup ? Est-ce que tes hormones travaillent tellement que tu te masturbes beaucoup ? Comment tu vis un peu cette sexualité qui n'arrive pas à s'épanouir à ce moment-là ?
Bah oui, c'est beaucoup de la masturbation, en fait, quelque part. Mmh. C'est beaucoup de la masturbation à 19 ans, quand j'ai commencé mes études supérieures, je me suis dit qu'il faudrait que j'en trouve une quand même. Mm-hmm. Parce que c'est quand même... je crois que je me suis dit que je me trouvais honteux quelque part. Avant d'avoir les personnes aujourd'hui qui m'entourent et qui sont d'une bienveillance dont je n'ai jamais connu...
tes amis ?
Ouais, mes amis aujourd'hui. Je me dis, bah ouais, aujourd'hui c'est pas forcément une honte de ne pas avoir eu de relation quelque part.
Ouais, donc là en fait, c'est ça, on arrive au sujet et c'est ce que tu voulais partager. C'est qu'en fait, aujourd'hui tu es vierge,
ouais.
Tu n'as pas eu encore de relation avec une femme, enfin en tout cas, tu n'as pas perdu ta virginité. Et ce que tu me disais, c'est que tu portes ça, alors sans le trouver d'adjectif, c'est ta condition et ton état aujourd'hui. Et tu avais envie de partager ça parce que ce n'est pas non plus une fin en soi d'être vierge à 24 ans.
Ah non, c'est pas une fin en soi, en fait. Je me suis beaucoup posé de questions, ça c'est sûr. On se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Mais je me dis, oui, c'est pas une fin, c'est pas forcément une fin en soi. En fait, notre vie sexuelle nous appartient.
Complètement.
Et elle est complètement unique. Donc, qu'on ait notre première relation à 17 ou à 25, voire même à 30 ou à 35, on s'en fout.
Donc justement, ça c'est intéressant. Donc tu fais tes études d'informatique, tu croises donc peu de filles puisque plutôt un secteur de garçons. Est-ce que tu as une vie sociale qui te permet de faire des fêtes, de brasser un peu socialement
disons
les filles?
Disons que mes premières études supérieures, enfin ma première période d'études supérieures, c'est une prépa. Et qui dit prépa dit forcément 35 à 40 heures de cours par semaine, plus les 2 heures de colle, entre guillemets. Ce qu'on appelle l'école, c'est les TD où on révise un petit peu les cours. Donc ça fait à peu près 42 heures de cours par semaine. On rentre chez nous, il est 21 heures et on a juste qu'une envie, c'est d'aller faire dodo. Donc la vie sexuelle, quand je dis qu'elle était au point mort, c'est niveau zéro, même pas le plaisir personnel. Ah, donc,
tu ne devais pas être le seul, hein, cela dit en passant.
Non, je pense qu'on était bien toute la classe. Oui, là, à ce moment-là, on était toute la classe.
Ah ouais, c'est un vrai chemin de croix, les prépas. Et donc tu fais donc effectivement. Donc c'est maths sup, maths spé.
Ouais.
Ok. Et c'est là où tu vas changer de voie parce qu'aujourd'hui, tu fais des études qui sont différentes, qui sont dans le journalisme.
Disons que j'ai fait une réorientation et les cours étaient un peu plus légers. Et c'est là où j'ai pu faire beaucoup de... Comment dire, d'activités extrascolaires, en fait. Beaucoup d'activités extrascolaires et beaucoup de radio.
D'accord. Que tu aimes beaucoup.
Voilà, en bénévole.
D'accord.
C'est-à-dire que... En gros, le bénévolat m'a permis aussi de rencontrer plusieurs personnes et ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu au monde extérieur parce que j'ai très, très cloisonné, dit très réservé de nature, des forcément très cloisonné et très resté, je reste un petit peu sur mon cercle restreint. Quoi. Et là, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir et de me dire y a d'autres personnes qui existent aussi.
Donc socialement, tu as rentré des gens dans ton cercle.
Ouais, j'ai rentré des gens dans mon cercle à ce moment-là, qui avaient entre 16 et 40 ans à peu près.
D'accord, donc plein de gens différents.
Ouais, d'horizons différents. J'avais des étudiants en informatique, j'avais des gars qui faisaient du dessin, j'avais des personnes qui étaient dans le ministère de l'Intérieur. Enfin bref, vraiment
différent.
Vraiment un horizon totalement large, un éventail large de métiers et de passions. Et ça nous a permis de nous rapprocher tous, en fait.
Et il y avait des femmes dans ce lot-là ?
Ouais.
Des filles ?
Ouais.
Et donc, tu as pu un peu connecter avec le genre féminin ?
On va dire, ouais.
Ouais, tu fais un grand sourire quand tu dis ça. Ouais. Donc, du coup, tu as pu un peu plus, on va dire, comprendre et savoir et les codes, etc. À ce moment-là, tu as commencé un peu, toi, à te projeter dans une démarche de séduction ou même juste de sympathie pour avoir des copines, etc. Comment ça se concrétise ? Comment tu arrives un jour un peu à briser cette glace ?
Comment j'arrive à briser cette glace ? C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas si c'est inné, si c'est un travail sur soi, si c'est un travail déjà de base, mais je ne sais absolument pas séduire. C'est une catastrophe. J'arrive avec mes gros sabots en disant « Est-ce que tu veux être ma petite amie ?» Non. au revoir. C'était sympa de t'avoir vu.
C'est tout pour moi.
C'est tout pour moi. Donc, non. Et puis... Enfin, en fait, je suis en train d'enregistrer une émission.
Toujours en radio bénévole.
Toujours en radio bénévole. Pour être précis vraiment sur le terme, c'est une web radio. C'est-à-dire que c'est des gens d'horizons différents, mais de secteurs différents, c'est-à-dire secteurs géographiques. Il y en a à Paris, à Montpellier, à Gisors.
Et là, toi, tu gères la technique.
Gère l'animation et la production des émissions. Et je suis en train d'enregistrer une émission et puis il y a une auditrice qui est vraiment très persistante sur l'émission, qui regarde beaucoup l'émission sur les réseaux sociaux et qui écoute l'émission en direct. Et là on se dit tiens, ça serait sympa de l'inviter. et de lui dire ce qu'on en pense, quelque part, de l'inviter, de la faire participer au débat, de la faire participer aussi un petit peu au jeu qu'il y a. Et puis, on se lie un petit peu d'amitié, elle et moi.
Vous échangez quoi par message?
Ouais, on échange par message. Et là, elle me dit c'est sympa tout ça, vos émissions, etc. Mais qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie? Qu'est-ce que toi, tu aimes?
Donc, elle s'intéresse à toi.
Elle s'intéresse à moi. Et là, je me dis c'est sympa, c'est vraiment sympa en fait. Quelqu'un qui s'intéresse à moi. Alors que d'habitude, les gens, c'était plus d'accord, je vais y aller. Non, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à moi, qui s'intéresse à ce que je fais et qui s'intéresse surtout à ce que je suis. Et pas forcément à la vitrine.
D'accord.
Il y a la vitrine et puis il y a l'être intérieur. Et l'être intérieur a commencé à ressortir petit à petit.
Donc vous échangez combien de temps à peu près?
On échange peut-être 2-3 semaines.
Mm-hmm.
Et à partir de ce moment-là, je me lance à l'eau. Je me dis, j'ai peur de te le dire. Mais je crois que je t'aime.
Ok. Si tu ne l'avais pas vu.
Je ne l'avais pas vu. Mais en fait, on s'était vu par Skype,
mm-hmm.
mais sans...
Sans image.
Sans image. Et je lui dis, je crois que je t'aime. Et elle me fait, j'ai un problème, je crois que je t'aime aussi.
Waouh.
C'est la première fois que je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui m'aime, une fille qui m'aime. Waouh.
Waouh. Et donc, du coup, vous aviez échangé par message. Donc, en fait, on va dire le crush s'est fait par les mots, par l'humour, par tout ça. Et là, au bout de 2-3 semaines, il y a une connexion.
Ouais.
Elle a quel âge, tu sais?
Elle avait... J'avais quoi? J'avais 22 à l'époque. Elle en avait 20.
Ok. Et donc, du coup, vous décidez quoi?
On décide de se voir par Skype.
Finalement. Le stress que ça a dû être.
Ouais. Ah ouais.
Incroyable. J'imagine.
C'est d'un stress incroyable, surtout pour ma personne. Après, son ressenti, je l'ai eu après, c'est qu'elle était aussi un petit peu stressée, mais que ça ne se voyait pas du tout.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on a parlé pendant peut-être 2h30, 3h à parler de nous, quelque part, mm-hmm. en fait.
Géographiquement, elle était loin?
Géographiquement, elle était... Je crois qu'elle était à Orléans de ce côté-là.
Oui, elle n'est pas en Australie. Quoi.
Voilà, elle n'était pas en Australie, mais elle était en France. Et quelque part, ouais, on a beaucoup parlé. Mais
Et quand tu mets la caméra, il se passe quoi? Tu la vois?
Ouais.
Et alors?
Le crush aussi.
Okay.
le crush aussi.
Et elle aussi?
Ouais, et elle aussi. Et je pense que ça a été le crush que j'ai eu de... Ouais, ça a été la plus belle relation que j'ai eue, même si aujourd'hui, je me dis, ça n'a pas forcément duré longtemps,
mm-hmm.
mais ça a été la plus belle période, entre guillemets, de ma vie, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait à moi, il y avait une accroche.
Et puis tu t'es senti important pour elle. Ça a duré du coup combien de temps?
2 mois.
2 mois. Vous vous êtes vus sur ces 2 mois? Parce que c'était compliqué?
Parce que c'était impossible déjà pour ma part, parce que elle était... Moi, j'étais vraiment chez mes parents, et mes parents avaient besoin de moi aussi.
Mm-hmm.
Et puis elle, pareil, parce mm-hmm. qu'elle travaillait beaucoup. On ne s'est pas perdu parce qu'on s'écrit encore.
Donc, vous n'avez pas trouvé le moment...
On n'a pas trouvé de moment où se voir. Et aujourd'hui, elle est un peu plus loin et on a trouvé des horizons différents, mais on s'écrit toujours et on se suit toujours quelque part. Donc,
d'accord.
C'est quand même formidable.
Ok, donc elle reste un peu ce premier flirt, même si platonique et même si 2.0, on va dire. Ça va avec ta génération. Ça a été pour toi l'histoire, en tout cas, qui t'a marqué.
Ouais.
D'accord. Donc après cette histoire avec cette jeune femme, qu'est-ce qui se passe? Donc tu gagnes un peu de confiance en toi?
Je gagne un peu de confiance en moi, oui. Même si au départ la confiance en moi était quand même au ras du sol, voire même un petit peu en dessous de la terre. Donc elle commence à sortir un petit peu de l'eau, cette confiance en moi. Et je me dis, je plais à certaines filles. Je ne sais pas où elles sont, mais je plais à certaines filles. Je me dis, bah, il y a peut-être un potentiel à se faire. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mis sur les applis de rencontre.
Alors, juste avant de parler des applis, avec cette jeune femme, est-ce que vous avez un peu... vous êtes rentré dans une relation un peu intime, même si virtuelle.
Oui.
Oui. Donc, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que...
Quelque part, on s'est dit que... Elle m'a raconté un petit peu ses plaisirs perso, ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas.
Elle avait une vie sexuelle.
Elle avait ses plaisirs personnels.
Mais
aussi.
Mais déjà une relation sexuelle avec un garçon, ok.
Oui, oui. Elle avait eu ses premiers rapports, je crois vers 17 ans, 17 ans et demi, quoi. Donc quelque part, ouais. Elle avait déjà eu des relations.
Tu lui as dit que toi, tu n'avais pas eu de relation avec les femmes.
Oui. Oui, je lui ai dit très clairement, je lui ai dit, bah, j'ai pas eu de relation, elle fait, bon, c'est pas grave.
Oui, c'est pas grave. Et vous avez donc un peu flirté virtuellement, mais jusqu'à faire du sexe 2.0, ou ça restait...
Non, ça s'est resté vraiment très... disons que elle était aussi réservée que moi sur l'écran, et que du coup, on est resté vraiment très épistolaire dans la forme. Mmh. On s'est échangé beaucoup de mots doux, on s'est échangé beaucoup de promesses, comme toutes les premières relations, quelque part. Mais,
oui, beaucoup de tendresse, en tout cas.
Beaucoup, ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de tendresse, l'un et l'autre. Mais toujours, ouais, ce côté réserve, ce côté on n'ose pas faire le premier pas l'un et l'autre.
D'accord, je comprends. Donc on reprend. Donc après, c'est à ce moment-là, juste après effectivement avoir eu cette jolie relation qui reste importante, où tu te mets sur les applis. Alors sur quelles applis te mets-tu ?
Tinder principalement.
Ouais.
Et puis après, j'ai vu d'autres applis, mais c'est la première, ouais, que j'ai eue, quoi.
Donc ça, c'était il y a quoi, il y a 3 ans, 2-3 ans?
2-3 ans, ouais.
Et alors, comment ça se passe? Tu te mets sur Tinder, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes, et comment tu fonctionnes avec ça?
Disons que comme je ne sais pas me définir déjà moi-même, je mets mon métier, je mets ce que j'aime, et je mets si vous voulez parler, allez-y. Point.
D'accord.
C'est tout. Et
t'es pas dans le catchy.
Ah ouais, non, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas en train de me vendre tel un produit commercial. Mm-hmm. Et j'y arrive pas. Et petit à petit, je me dis, mais parce que je regarde un petit peu les gens qui l'ont, les gens qui l'utilisent, etc.
Un petit benchmark. Comment
voilà,
se passe.
Je suis à marché d'études. et je me dis, bah ouais, mais ça sert à quoi? Ça me sert à quoi? Parce que on me dit, ouais, moi j'ai eu des matchs, ouais, moi j'en ai pas eu. Comment vous avez fait, vous? Bah, on s'est décrit, et puis c'est la nature qui a fait le reste.
Et ça marche pas.
Et moi, ça marche pas, parce que j'ai dit ce que j'aime, j'ai dit comment j'étais, enfin, on me voit quand même, à moins qu'il soit bigleux, mais il y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Je pense que sur toute l'utilisation de il y a 3 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être eu 5 matchs sur Tinder. Okay. Wow.
Mais qu'est-ce que tu as mis comme photo? Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai mis une photo normale quelque part, où j'étais. Je crois que j'ai mis une photo sur les réseaux, quoi.
Ok.
Probable. J'ai pas mis de photo où j'étais mise en valeur ou quoi que ce soit, parce que. Bah déjà, j'aime pas forcément me prendre en photo, parce que c'est pas, je me sens pas photogénique, parce que toujours le complexe qui est là et qui persiste, même s'il disparaît au fil du temps.
Tu travailles dessus, sur ce complexe?
Sur ce complexe?
Oui.
Petit à petit, ouais.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui te permettrait, à ton avis, de faire disparaître? C'est toujours très compliqué, mais qu'est-ce qui te permettrait, tu penses, de moins y penser?
De moins y penser? Aujourd'hui, depuis peut-être, ouais, on va dire 3 mois maintenant, il y a beaucoup de femmes sur les réseaux qui montent leur rondeur, qui montent le fait que forcément, bah, qu'elles aient des formes, bah, ça les dérange pas, ou le fait que je remercie beaucoup, et je remercierai jamais assez Julie alias la fille qui a des tâches sur Instagram, qui elle monte ses angiomes, ça se voit de partout, mais elle s'en fiche. Et c'est ça qui la rend encore plus belle. Et c'est ça qui la rend encore plus forte. Et me dire que toutes ces femmes qui, elles, sont quelque part agressées en permanence sur les réseaux sociaux et qui assument leurs différences, bah, ça mène moins indirectement. C'est-à-dire que moi, ça se voit aussi, peut-être moins, mais ça se voit aussi. Et je me dis, bah, si elles, elles arrivent à s'assumer, peut-être que moi, je vais arriver à m'assumer aussi. À travers leurs témoignages, à travers leurs photos, à travers leurs discours, j'arrive petit à petit, c'est toujours un chemin d'escargot, on va dire, mais j'arrive petit à petit à assumer cette ce complexe-là.
Tu parles du fameux mouvement du body positive, et effectivement, qui depuis quelques mois maintenant prend beaucoup, beaucoup de place sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ce que tu dis est intéressant parce qu'il n'y a pas plus tard là, que le week-end dernier, donc... J'avais partagé une story sur le compte du podcast où effectivement je partage plein de physiques d'hommes très différents, des hommes de toutes les couleurs, des hommes ronds, des hommes moins ronds, des hommes poilus, des hommes imberbes, des hommes... enfin voilà, parce que le corps de l'homme a la même sensualité et érotisation que le corps de la femme, à mon sens. Mais je me rends effectivement compte que le travail est très long et qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un peu du mal avec cette acceptation de leur sensualité. Et c'est vrai que j'ai partagé des photos que moi je trouve très belles. Je pense à un mannequin grande taille qui s'appelle David et qui est très beau dans ses formes, dans son, enfin voilà, il est hyper sensuel, hyper solaire. Et aujourd'hui voilà, il est mannequin grande taille parce que c'est un homme assez fort, mais qui voilà, qui émane, y a une virilité, il y a une sensualité qui émane de lui, qui sont extraordinaires. Et c'est vrai que il y a aussi pas mal de femmes sur Instagram et puis des influenceuses comme Juliette Katz, coucou les girls ou d'autres qui osent assumer effectivement leur corps. J'aimerais pas dire leur différence parce que ça sous-entend qu'il y a une normalité dans la différence, mais en tout cas, c'est vrai que tu as raison, ça fait du bien de voir la kyrielle de corps qui existe et effectivement qu'il n'y a pas une beauté mais il y a des beautés et ça je pense qu'effectivement ces gens-là ils ont une importance assez capitale dans l'acceptation de soi, surtout effectivement quand on a malheureusement eu à souffrir de quolibets au collège ou au lycée sur un physique, sur quelque chose qui effectivement n'est pas entre guillemets dans la norme. Maintenant des hommes poilus il y en a plein et il y a des femmes qui trouvent ça très beau, très sexy et tu vois, et comme il y a des hommes qui aiment les femmes rondes, des hommes qui vont aimer les femmes avec des gros seins, des petits seins, des grosses fesses, des petites fesses, enfin il y a de tout, tu vois, et c'est ça qu'il faut pas oublier quand on est dans la séduction, c'est qu'on trouvera, je pense, toujours quelqu'un avec qui on va plaire. Donc tu disais que ce body positivisme t'avait aidé.
Ouais, énormément. Il m'a beaucoup aidé dans le fait de dire que nos différences n'en sont pas. Comme tu le disais tout à l'heure, nos différences n'en sont pas, et quelque part, on n'est pas comme le mec qui est sur la couverture d'un magazine quelque part.
Non, puis t'inquiète pas, lui-même n'est pas comme ça en fait, hein, il est retouché, retouché.
Et je me dis, ah bah oui, ok, d'accord. Donc en fait,
ça te fait du bien.
Ça m'a fait du bien, mais c'est depuis trois mois. C'est-à-dire que c'est très récent que il y a vraiment ce mouvement. Je le connaissais pas, enfin je le connaissais mais sans connaître son nom. J'avais vu des photos, j'avais vu des reportages, mais je n'avais pas le nom en tête. Et le fait de mettre un nom et de savoir ce que c'est, ça m'a permis de me dire, ok, si elle s'assume, moi, je peux m'assumer.
Super. C'est génial. Hein, tu penses au jour où tu vas être nu devant une femme?
Ouais.
Et alors?
Bah, aujourd'hui, c'est compliqué. c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'elle va partir?
Mais non, elle va pas partir, Manu.
Non, mais vraiment, c'est une question que je me suis posée. C'est, est-ce qu'elle va partir? C'est-à-dire que, encore une fois, le complexe, il est encore présent, intérieurement. C'est-à-dire que je ne vais pas le revendiquer, je ne vais pas dire « Ouais, les gars, en fait, j'ai des poils sur le corps, partout, et surtout beaucoup. Alors les gars, si vous voulez, on peut y aller. Les filles, pareil, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu.
Tu te mets en maillot de bain sur la plage ?»
Je me mets pas en maillot de bain, j'y vais pas sur la plage.
D'accord.
Donc même alors j'ai mes grands-parents ont une maison près de la mer, mm-hmm. mais je n'y vais pas. Disons D'accord. que je vais plus jouer au foot et lorsque je joue au foot, je peux me mettre torse nu parce qu'il y a beaucoup de garçons avec moi. Mais quand s'il y a des filles, j'irai pas.
D'accord.
Je vais pas me mettre en torse nu. Ou alors quand c'est en mouvement et qu'il y a plus de beaux mecs, elles vont plus être attirées par les beaux mecs que par moi.
Après, c'est ta lecture.
Oui.
Ok, donc ce mouvement te fait du bien.
Ouais.
Donc là, tu es toujours sur les applis.
Ouais.
Qu'est-ce que tu... Donc là, on parle d'aujourd'hui. Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que tu y penses tous les jours ou pas? Comment tu arrives à te positionner par rapport à ça?
J'y pense pas tous les jours.
Mm-hmm.
Parce que j'ai beaucoup d'autres choses à penser qui me permettent de moins penser à ça. J'y pense encore, c'est sûr. Mais disons que... Bah, c'est comme ça, et puis voilà, qu'on va pas en faire un drame non plus, quoi.
Mm-hmm.
C'est ma vie, si ça gêne les autres, bah tant pis, puis qu'ils aillent se faire voir, en fait, voilà, tout simplement.
Tu as raison. Je pensais à ça, justement, quand on échangeait, et sur le fait d'avoir ce qu'on qualifie, et attention, c'est pas ce que je pense, mais c'est vrai que 24-25 ans, ça devient une virginité tardive, mm-hmm. c'est ce qu'on dit. Tu sais qu'il y a d'autres moyens pour perdre sa virginité? Est-ce que tu y as pensé?
Que avoir une fille qui nous vient... c'est-à-dire... oui, j'y ai pensé.
C'est ça.
Vers 22-23 ans, j'y ai pensé.
Payer pour avoir une prestation sexuelle.
Ouais, j'y ai pensé. Vers 22-23 ans, j'y ai pensé. Et je me dis, si je dois payer, ça, pour moi, ça sera plus une... me dire j'ai voulu le faire à tout prix.
Et c'est pas ton souhait.
Et c'est pas mon souhait.
Tu as envie d'avoir une histoire d'amour avant tout.
J'ai envie que la fille qui soit avec moi, forcément, ça soit pas une fille que j'ai payée, ça soit plus une fille qui soit attirée par ce que je suis.
Et
parce
qui te
que
désire
je,
toi.
Qui me désire moi et pas quelqu'un d'autre. Et le fait, j'ai toujours eu ce truc en tête. Et je pense que c'est un de mes premiers flirts qui me l'a rappelé il y a peut-être un an. C'est que celle qui arrivera à te faire changer de mentalité par rapport à ça, je sais qu'elle est là, elle existe.
C'est sûr, mais c'est 7 tout. Milliards sur cette planète, il y a forcément quelqu'un pour toi.
Donc quelque part, ce fait-là, elle va te désirer et elle ne va pas... elle va pas te... Tu vas pas la faire fuir quelque part.
C'est sûr.
Ce que je disais, ce qui est très paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est vrai.
Mais voilà, ça m'a...
Ça t'a rassuré ?
Ça m'a rassuré, en fait. Et c'est pour ça que je me dis que je vais pas payer une fille pour perdre ma virginité. Ma virginité, pour moi, est trop... alors, peut-être que je la mets sur un piédestal, je ne sais pas, mais disons que je me dis, je vais la perdre avec quelqu'un que j'aime.
Tu vas la donner, c'est aussi joli. Tu la donnes, c'est moins... je comprends ce que tu dis et c'est vrai qu'il y a encore quelques décennies, on va dire, c'était monnaie courante de perdre sa virginité avec une prostituée. C'était un peu un passage pas obligé, mais le père pouvait payer, tu vois, une prostituée comme cadeau pour entrer dans l'âge adulte à ses enfants, enfin à son fils. Et c'était pas, tu vois, c'était un peu un passage. Mais c'est vrai que c'est chouette de conscientiser ta virginité aujourd'hui et de choisir en tout cas ce que tu vas en faire et à qui tu vas l'offrir. Mmh. Ok. Tu préférerais avoir une première expérience avec une femme qui a déjà de l'expérience sexuelle ou dans ton monde idéal, une fille qui fera sa première fois avec toi?
Je me suis posé la question il n'y a pas plus tard qu'une semaine.
Ah oui.
C'est quand même.
C'est frais.
C'est frais. Et je me dis, je préfère avoir une femme qui a une expérience, peut-être pas grande ou petite, peu m'importe, mais qui sait me guider.
D'accord.
Dans cette première expérience-là.
C'est intéressant parce que c'est vrai que les hommes, j'échange pas mal sur Instagram avec des hommes en DM et puis même d'autres, hein, des livres que je lis, des conférences, des articles sur le poids de la charge mentale sexuelle que les hommes peuvent avoir quand effectivement ils sont initiateurs du rapport sexuel. Et c'est vrai que les mecs ont cette pression de savoir jouer, faire jouer une fille, savoir, tu vois, donner le tempo, être endurant, faire ceci, faire cela. Et toi, tu te positionnes comment comme ça? Parce que quand tu auras cette première fois, tu as envie de la préparer, tu as envie qu'elle soit spontanée. Comment tu vis ça?
J'ai envie qu'elle soit spontanée. Et c'est marrant, ce que tu dis pour amener ta question, c'est un petit peu la vision du porno, quelque part.
Mmh, bien sûr.
C'est-à-dire qu'être endurant, faire jouer la fille, etc., bah ouais, c'est... C'est quelque part, c'est la vision du porno qu'il y a quasiment tous les jours. Et je me dis, non, si je ne la fais pas jouer, c'est pas grave, parce que j'apprendrai au fil du temps.
Mm-hmm.
C'est une expérience qui s'acquiert vraiment au fil des mois, au fil des années même.
Mm, oui, complètement. Donc, oui, c'est en pratiquant qu'on devient bon. Ouais. Hein, c'est sûr que tu peux lire tout ce que tu veux.
Je veux dire, ça s'apprend sur le tas.
Complètement. Non, c'est très juste. Est-ce que tu prends le temps de te documenter ou finalement tu as envie de le vivre au feeling?
Ah, je le vis au feeling.
Tu vivras au feeling?
Ah ouais, je le vis au feeling.
Comment elle est ta fille idéale? Est-ce que tu as un type de fille? Est-ce que tu sais à peu près à quoi elle va ressembler? Que tu aimerais, hein, bien sûr.
La fille idéale?
Mm-hmm.
Oh. J'en ai pas.
D'accord.
J'en ai pas.
Mais tu as un type de fille qui te plaît? Tu as remarqué qu'elle est.
Les blondes et les rousses.
D'accord.
C'est mon type de fille, mais après je veux dire, il y a beaucoup de brunes qui, je veux dire, mon premier flirt c'était une brune, hein.
Ok,
donc c'est, j'ai pas de
en même temps tu l'avais pas vu, hein, le premier flirt,
ouais, mais disons que le fait de me dire ouais j'ai une fille idéale, non j'en ai pas, clairement.
Non, mais t'aimes les filles plutôt est-ce qu'il y a un type de fille, est-ce que c'est des, je sais pas, des grandes blondes ou plutôt des petites rousses, ou des filles plus qui ont des formes, des filles qui ont pas trop de formes, est-ce que c'est, tu vois, est-ce que t'as une préférence? Tu peux ne pas en avoir, bien sûr,
Je sais pas, alors c'est peut-être psychologique, mais on dit que la fille idéale ou le qui ressemble à ce qui étaient nos parents.
Oula.
je m'explique. Vraiment, je crois que c'est une youtubeuse qui avait dit ça. L'amour de notre vie, quelque part, ressemble physiquement à notre père ou à notre mère.
Waouh.
C'est incroyable.
Tout le monde est en train de se dire, regardez, ouais, son compagnon, sa compagne. Ah, c'est papa ou c'est maman, ok.
Et je me dis, je sais pas. Je sais pas si ma fille idéale sera comme ma mère ou comme ma tante, ou je sais pas, tout simplement.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses que, alors évidemment c'est compliqué de se projeter aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des pratiques, il y a des choses qui pour toi vont être tabous, tu sais, tu te sens qui vont être tabous, ou tu te laisses une liberté absolue dans le sexe?
Je me laisse une liberté absolue, je sais qu'il y a des choses qui seront tabous.
Mais comme quoi, tu sais, tu peux me le dire?
Peut-être que le fétichisme, le fait de porter telle ou telle tenue, mm-hmm, ou quoi que ce soit.
Ah, tu regardes quand même des filles en combinaison sur...
Ouais, voilà. c'est peut-être ce fétichisme-là qui va peut-être freiner, mais peut-être qu'au fil des mois,
Attends, ça m'intéresse, parce que tu dis que ça va freiner dans ta sexualité, mais ouais, par contre, sur porno, c'est ce que tu cherches.
Ouais.
D'accord.
Mais c'est pas... je veux dire, parce que c'est forcément le truc idéal, le truc rêvé.
D'accord, d'accord.
Mais quelque part, c'est pas comme ça que je l'imagine.
D'accord.
C'est sûr qu'on se dit, oui, je vais prendre des filles en combinaison, comme ça, la première fois, ça sera en combinaison, ça sera le truc rêvé.
Mais
quand
tu dis en combinaison, c'est genre combinaison de latex, vinyle, etc.
Cuir.
Ah oui, c'est vraiment. Ouais. Ok. Donc c'est des maîtresses SM ou...
Pas
forcément.
Non.
D'accord.
Parfois, non. Et quelque part, le fait de... C'est le truc... Ouais, c'est le truc rêvé. Mais si ça se passe pas, c'est pas grave.
D'accord. Après, tu verras, tu auras le temps de voir.
Oui, je veux dire, je regarde pas que ça non plus. Mais je veux dire, aujourd'hui, je pense que les dernières vidéos que j'ai pu regarder, c'était des vidéos où... c'était beaucoup plus sensuel, il y avait beaucoup plus d'amour qu'autre chose. C'était pas baiser pour baiser, quoi. Okay. Voilà.
Tu penses que tu serais capable de justement baiser pour baiser?
Non.
T'as besoin qu'il y ait du sentiment?
Ouais. J'ai besoin qu'il y ait de la sensualité, j'ai besoin qu'il y ait du quelque part de l'amour derrière. S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien.
Pourquoi ça ne sert à rien ?
Parce que pour moi, quelque part, le fait de faire l'amour, peut-être que je suis vieux jeu et que je suis totalement années 50. Mais le fait de faire l'amour, c'est un sentiment d'amour intense entre l'un et l'autre. Mm-hmm. Et sans sentiment, c'est animal et il n'y a rien derrière.
Toi, ça ne t'intéresse pas en tout cas ?
Non.
Il y a des gens qui s'épanouissent comme ça ?
Oui, mais sûrement.
Ok, on va bientôt arriver à la partie de demain, donc on en a un peu parlé quand même, mais t'imagines comment toi ta sexualité de demain ?
De demain ?
Ouais. Avec une partenaire, ou tu penses qu'une fois que tu auras perdu ta virginité, tu vas vouloir expérimenter d'autres partenaires ? Comment tu pourrais être l'homme d'une seule femme, tu penses ?
Je pourrais être l'homme d'une seule femme, ouais.
À vie ?
Bah, disons que...
Attention, ouais. L'engagement, hein.
Bah, disons que je suis déjà de base...
T'as un grand sentimental.
Je suis un grand sentimental, je suis un grand fidèle. J'arrive pas à me dire, bah, lui, j'ai pu être avec lui ou elle, j'ai pu être avec elle.
Oui, tu parlais tout à l'heure de tes amis et de leur bienveillance. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus ? Ça veut dire qu'ils sont au courant que tu n'as pas eu d'expérience sexuelle. Ouais. Vous en parlez ?
Oui.
Et ils sont comment avec toi, justement ?
Ils sont d'une bienveillance incroyable.
C'est-à-dire, ils t'accompagnent,
je veux dire, on a fait plusieurs soirées ensemble, on a débattu de ça pendant peut-être 2 heures, 2 heures et demie, voire même 3 heures. Mm-hmm. Il était 2 heures du matin.
Ils te jugent pas ?
Ah, mais absolument pas.
Et c'est tous des gens qui sont actifs sexuellement ?
Ouais.
Et ils trouvent ça quoi ? Quand vous en parlez, c'est quoi le sujet ? Qu'est-ce qui rentre dans votre conversation ?
Le fait que... il me dit, c'est avec mon meilleur ami que j'en ai parlé. Je lui ai dit, des fois, ouais, dans des phases où je suis en bas de total, je me dis, putain, j'ai personne dans ma vie et je suis pas actif forcément sexuellement avec un partenaire. Et ça m'énerve, en fait. Je suis en bas de total. Et il me dit, mais tu sais que t'es peut-être... Là, tu es peut-être en retard, entre guillemets, mais tu en avances sur plein d'autres choses. Je veux dire, beaucoup. Il m'a dit, tu as une culture incroyable. Mm-hmm. Sers-en toi.
Déjà, tu as fait Mathieu Matspé, déjà.
Déjà. lorsqu'il me donne une date, je suis capable de dire peut-être les 3 grands événements de cette année-là. J'arrive à avoir une culture audiovisuelle, entre guillemets, qui est assez large. Mm-hmm. Que ce soit YouTube, télé, radio, etc. J'arrive à avoir une culture déjà scientifique, forcément. Mm-hmm. Il me dit, t'as une culture incroyable. Serzan dit que t'as cette culture-là.
Oui, quand dans la démarche de séduction...
tu me dis que t'es cultivé. C'est pas une honte, c'est pas un défaut.
Bien sûr que non. Et t'as pensé à un moment donné, justement, tu parlais beaucoup du sentiment d'être nul en séduction. Ouais. Tu t'es pas dit à un moment, peut-être, d'essayer, tu vois, de te faire coacher, aider par, tu sais, il y a un mouvement de coach en séduction, d'hommes qui apprennent aux autres à savoir se rapprocher de la gente féminine. Tu y as pensé un peu ?
Non.
Non ?
Non. J'y ai pas pensé et ça ne m'a pas traversé l'esprit.
T'es pas à l'aise avec cette idée ?
Je suis pas à l'aise avec cette idée, non. Je me dis que la confiance en nous, ou de la confiance en moi surtout, elle arrivera quand la personne sera mettre à l'aise.
D'accord.
Et pas un coach que j'aurais payé 70 euros par séance.
Tu t'es renseigné quand même.
Non, mais je me dis que c'est à peu près ce tarif-là. Donc je me dis que voilà, s'il y a...
T'as envie que ce soit naturel ?
J'ai envie que ce soit naturel. J'ai envie que la partenaire avec qui je suis me dise « T'es beau ? »
Mm-hmm. Pourquoi c'est tu important pour toi ?
Qui me dise que je suis beau ? Bah déjà ça me permettrait d'avoir une confiance en moi qui s'élève petit à petit. Mm-hmm. Parce que même encore aujourd'hui, même si mes complexes m'entourent quelque part, m'entourent la tête, m'entourent l'esprit, ils sont moins présents, je les revendique moins, ces complexes là mais ils sont toujours intérieurs en moi, ils sont toujours ancrés en moi.
Est-ce que tu te regardes nu devant la glace?
Oui.
Et alors tu te dis quoi?
Je me dis ça va, je suis pas... Mais c'est encore une fois, c'est très récent. C'est très récent parce que le fait aussi que, bah, on en parlait tout à l'heure des filles qui s'acceptent, je me dis en fait, ouais, je suis pas si dégueulasse que ça. Et même, il y a des amis de mes grands-parents qui ont peut-être 45, 50 ans qui me disent, ouais, mais t'es beau. Je veux dire, j'aurais 20 ans de moi, je serais sorti avec toi. Je fais, merci.
Merci madame.
Merci, madame. C'est bien. Mais c'est vrai que oui, maintenant, je me sens un peu moins dégueulasse. Mais je me sens pas BG. Je me sens pas.
Beau gosse pour les
Voilà.
gens qui connaissent pas. Tu te sens pas encore BG.
Non.
Tu penses qu'un jour tu y arriveras?
Je sais pas.
Dans le regard d'une femme, peut-être?
Dans le regard d'une fois, peut-être, ouais.
Ok.
Mais moi, ça sera un travail long. Ça durera des mois, voire même des années. J'en suis convaincu. Peut-être que ça sera d'un coup parce qu'il y aura la fille qui se remet à l'aise. Mais sinon, je sais que ça sera un travail psychologique et physique aussi, de plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ça, c'est sûr.
Est-ce que tu t'es donné une limite
Non.
de... Non.
Je ne suis pas donné de limite. Parce que je me dis, de toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. Ça arrivera au moment où je m'y attends le moins.
Peut-être.
Et quelque part, je ne me donne absolument aucune limite. Si c'est dans 5 ans, c'est dans 5 ans. Si c'est dans 2 mois, c'est dans 2 mois. Aucune
Donc.
journée. C'est bien de ne pas savoir parfois.
Ouais, je pense aussi. On va arriver sur le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Manu?
Ce que j'aimerais dire, assumez-vous tel que vous êtes et surtout ne vous comparez pas aux autres parce que ça va vous complexer vous-même. Le fait de se dire que on est en retard par rapport à lui, on est en avance par rapport à lui, où cette société est totalement comparative à chaque fois où on compare les uns par rapport aux autres, que ce soit dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, si on se compare, ça va peut-être nous complexer et ça va nous freiner dans ce qu'on veut faire. Alors ne vous comparez pas et vivez votre vie telle que vous la sentez, tout simplement.
Super, bah merci beaucoup en tout cas.
Merci à toi.
Merci à vous pour votre soutien, votre fidélité et vous, auditeurs et auditrices, qui êtes toujours présents et de plus en plus nombreux surtout. Je vous invite à venir sur le compte Instagram de On The Verge, On The Verge Podcast, mais aussi venir me donner votre avis, échanger. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Ils me permettent d'évoluer, d'aller dans des directions qui vous plaisent davantage. Et voilà, et en fait, on fait ça ensemble. Donc n'hésitez pas à venir échanger. À très bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.